used to know exactly what is wrong.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va?
À toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canu sur le 102.2 à Lyon et sa région, pardon, et sur radiocanu.org partout ailleurs. Et bien, comme je l'ai dit, c'est la causerie, je crois que je l'ai déjà dit. À la causerie d'ailleurs, à qui on souhaite un joyeux anniversaire, à cette chose complètement immatérielle.
Joyeux anniversaire,
joyeux anniversaire, la causerie. Voilà, parce que la causerie a
5 ans.
5 ans. C'est une petite émission qui grandit. Eh bien, alors, avant de...
Si tu présentais les gens...
Oui, c'est ce que j'allais faire. Donc, la causerie, ce soir, dans les studios, il y a, à la technique, Clara.
Bonsoir.
Il y a Fab.
Salut.
Il y a moi. Et
Jean-Yves, donc.
Et nous avons, ce soir, deux invités. Nous avons Mathieu.
Bonsoir.
Sa voix vous dira peut-être quelque chose. Et Adrien.
Et bonsoir.
Lui,
sa
par
voix
contre,
ne vous dira rien.
Eh bien, alors avant de discuter avec nos invités, on va quand même vous rappeler 2-3 petites infos pour nous contacter. Donc il y a le mail.
lacauseriecanu@gmail.com, le tout en minuscules.
Et attaché.
La causerie canu. Voilà.
Et vous pouvez aussi retrouver les podcasts des émissions de toutes les causeries et avec toutes les infos qui vont avec, on essaie de mettre à chaque fois. Et ça se passe sur blogs, donc au pluriel.
.radiocanu.org/lacauserie.
C'est ça.
Ou sur radiocanu.org et vous cherchez les blogs, il y a la causerie.
Et nous sommes aussi sur un réseau commercial de marque Z. Vous y retrouvez en fait à chaque fois les podcasts, donc si vous voulez commenter, passez par le blog, c'est bien mieux.
Surtout c'est le seul qu'on lit, autant passer par le blog. Voilà.
Voilà. Eh bien, ce soir, nous recevons donc Mathieu et Adrien qui viennent nous parler d'une...
Voilà.
Alors, Adrien me montre la BD, mais je sais quand même pourquoi vous êtes là.
Je sais pas, je vérifie.
Pardon.
Ah ben ça y est, Jean-Yves nous a quitté. Alors, donc ce soir, donc Mathieu et Adrien qui sont venus nous présenter deux choses en fait, enfin deux objets. Le premier, c'est les rues de Lyon numéro 38, qui s'appelle, je vais vous laisser lire le titre quand même.
Un bien qui s'appelle Second Front, Lyon dans la guerre d'Algérie.
Voilà. Et quelque chose que vous aviez fait en commun ensemble avant, et qui là par contre...
Et qui s'appelle Songe à Montluc.
Voilà, donc une soirée très très joyeuse ce soir. Déjà si vous pouviez commencer par vous présenter un petit peu, chacun l'un et l'autre, qu'on sache un peu qui vous êtes. Enfin, on va commencer par celui qui n'est jamais venu quand même, Adrien.
Eh ben, moi, je m'appelle Adrien, déjà. Je travaille au mémorial de la prison de Montluc, donc qui est en fait l'ancienne prison pour femmes, qui à l'origine d'ailleurs est une prison militaire construite en 21 et qui a fermé en 2009, et qui l'année d'après est devenue un mémorial ouvert au public. Et donc, je suis chargé de développement là-bas. Et voilà, et j'ai pu rencontrer, dans le cadre de ce travail, Mathieu, avec lequel on a décidé, maintenant il y a 2 ans, de travailler ensemble à la réalisation de bandes dessinées, de petites bandes dessinées de 10 pages. Alors lui, il vous en parlera, lui, il a d'autres objectifs un peu plus importants.
Grosse bande dessinée.
Mais voilà, moi je co-scénarise avec lui, qui réalise les dessins. Et voilà. Sinon, pour faire un peu plus large, j'ai un parcours d'historien. J'ai été diplômé d'un master 2 d'histoire ici à Lyon. Après, j'ai un peu déambulé à différents endroits, que ce soit en Irlande pour faire un autre master, à Paris où j'ai travaillé pour l'UNESCO pour un programme lié à la route de l'esclave, dans différents musées, notamment un musée de la résistance et de la déportation en Ardèche. Et il y a maintenant 5 ans, je me suis retrouvé en poste au mémorial de la prison de Montluc. Et j'y suis toujours et très heureux.
Bah, ça, j'aime beaucoup le « et très heureux » à la fin.
Ouais, faut préciser quand même.
Ouais, parce que c'est pas
je suis très malheureux.
Je crois que tu as oublié une info très importante que tu nous avais donnée pendant la prépa, c'est ton groupe sanguin.
Non, je déconne.
En l'occurrence, j'avais dit O négatif, qui est tout à fait faux.
Pardon.
Je suis A négatif, pour être précis.
Merci pour cette information.
Au cas où il y a un accident pendant l'émission.
On ne sait jamais.
Et donc, Mathieu ?
Eh bien, voilà, ça fait une transition avec notre travail dans les rues de Lyon et la rigueur historique, la précision des informations que l'on cherche à y mettre. Moi, donc, ça fait la deuxième fois que j'ai la chance d'être invité ici, suite à une chouette émission avec toute l'équipe du GAMS autour du livre Fleurs coupées. Et donc, cette fois-ci, c'est pour cette bande dessinée, donc Second Front. Donc, moi, donc, j'ai une double casquette. Je suis professeur d'histoire-géographie dans un collège à Mions. Et je suis donc dessinateur, illustrateur. Je fais partie de l'épicerie séquentielle, qui est donc l'association des auteurs de bande dessinée de Lyon, qui publie la revue Les Rues de Lyon. Et suite à des choses sur lesquelles on viendra, effectivement, avec Adrien, on a pu réaliser donc ce numéro de février qui porte sur un aspect particulier de l'histoire de Lyon qui est assez méconnu. C'est donc la période de la guerre d'Algérie.
Et donc, du coup, on va quand même dire quelque chose pour tout le monde, parce qu'on dira le numéro de février, on est en mars. On peut le trouver toujours.
Voilà,
on va le dire tout de suite, ça, que les rues de Lyon, ça se paraît tous les mois, mais tous les numéros sont accessibles.
Voilà, alors les numéros effectivement restent dans les librairies et sont régulièrement réédités. Donc il y a possibilité dans la plupart des librairies de Lyon de trouver même d'anciens numéros. Si on ne trouve pas celui qu'on désire et si le libraire, on a peur qu'il mette trop de temps à le commander, on peut le commander directement sur le site de l'association, sur lequel on peut aussi s'abonner. Donc on disait, on est arrivé au numéro 38, donc il y a de larges pans de l'histoire de Lyon qui ont été traités. Et puis, effectivement, le numéro de mars va bientôt arriver. Je le salue, d'ailleurs. Et enfin, je salue les auteurs. Et par contre, voilà, on peut continuer à se procurer et à lire le numéro de février.
Donc voilà.
Et je veux juste préciser, la BD, les rues de Lyon, c'est à 3 euros. Voilà, c'est juste que chacune.
Ouais, c'est pas cher.
Ouais, puis si on peut parler effectivement un instant du principe donc, de cette association. Elle est née donc il y a quelques années autour de personnes, d'un certain nombre de personnes comme Kiran, comme les frères Jouvray, qui souhaitaient trouver un système, un modèle économique qui fasse que les auteurs de BD ne soient pas étranglés par la relation avec les éditeurs qui est parfois devenue aujourd'hui compliquée. On sait que c'est assez difficile pour les auteurs d'en vivre. Et là, donc, le principe, c'est de coopération collective où chacun met à la patte pour que le travail normalement dévolu à un éditeur soit fait par les auteurs entre eux. Donc, les maquettes. Alors, j'en profite pour citer Christophe Fournier qui est l'auteur, justement, le membre de l'épicerie séquentielle qui nous a donné un énorme coup de main là sur ce numéro au niveau de la maquette. Mais il y a voilà, chacun, il faudrait citer tout le monde parce que entre ceux qui vont faire livraison, ceux qui sont en permanence en train d'être en contact avec les libraires ou autres, chacun apporte sa pierre à l'édifice et c'est comme ça que cette association, elle grossit et qu'elle aborde de plus en plus de projets différents. Il y a les rues de Lyon qui est l'aspect un petit peu la revue centrale, qui donne sa cohérence à l'ensemble, mais il y a toute une série de projets autour. Et voilà, et on a la joie d'avoir contribué, d'avoir participé à ça dernièrement.
Et vous, Votre histoire, elle a commencé quand? Non, je déconne. Mais c'est quand? Non, mais c'est quand? Quand est-ce que vous vous êtes rencontrés? Et justement, enfin, c'est pas étranger non plus à tout ce qui suit, etc. Ou j'ai rien compris?
Non, 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 j'ai parfaitement compris. Et ben justement, c'est lié. De toute façon, l'élément clé, c'est la prison Montluc. Mmh. Puisque du coup j'y travaille depuis 2013 et dans le cadre des activités scolaires de Mathieu, il a pu venir à Montluc pour préparer la visite avec ses élèves et moi je l'ai accueilli et j'ai parlé notamment de la seule personne qui s'est évadée de cette prison pendant l'occupation allemande, la seule qui s'est évadée qui n'a pas été reprise pour être plus précis, puisque Mathieu a parlé de rigueur historique, on va essayer de rester dans cette ligne. Et du coup, Mathieu, en fait, est arrivé à un moment où il cherchait un sujet pour réaliser une bande dessinée. Du coup, ce sujet l'a intéressé. À la fin de la visite, il est venu discuter avec moi pour savoir s'il était possible d'obtenir plus de renseignements là-dessus, ce que je savais, comment je l'avais su. Ben voilà, donc on s'est mis à discuter. Et puis, ben, on a dit qu'on pourrait peut-être se revoir dans un cadre différent. On a commencé à sympathiser. Et puis, petit à petit, les choses se sont faites. Il a décidé de travailler là-dessus, puis il vous en parlera un peu plus en détail. Et parallèlement à cette bande dessinée, d'autres projets se sont développés, notamment le premier Songe à Montluc, dont on va vous parler.
Oui. Eh bien, allez. Donc, en fait, moi, effectivement, je cherchais un sujet. J'avais commencé à travailler sur un projet autour du retour des déportés en 45. L'aspect concret, qu'est-ce qui se passe entre le moment où le camp est libéré et le moment où on arrive, mais qui impliquait un nombre de repérages, un temps comme ça dont je ne disposais pas. Et là, le récit qu'Adrien a fait de l'histoire d'André de Vigny, ça donnait quelque chose de formidable, une espèce de huis clos dans cette prison avec la présence de cette prison, donc des décors, l'accessibilité de la documentation. Donc c'était vraiment quelque chose de tout de suite très très intéressant. Mais donc moi je suis lancé là-dedans depuis à peu près 2 ans et demi et donc je porte ce projet qui est sur une bande dessinée de 100 pages, donc c'est quelque chose là de longue haleine. Mais précisément, si le mémorial de Montluc est vraiment connu pour pour l'aspect Seconde Guerre mondiale, et là Adrien pourra en parler davantage, c'est aussi une prison en fait qui a fonctionné pendant à peu près 80 ans, un peu plus de 80 ans. Et qui donc permet d'aborder différentes époques de l'histoire de la France et de Lyon. Et ça a été un peu notre objectif avec la première bande dessinée qu'on a fait ensemble, Songe à Montluc, qui est un parcours à travers toute l'histoire de cette prison.
Et ça, pour trouver Songe à Montluc, comment on fait?
Alors c'est pas compliqué.
Non mais ça c'est toi.
Et c'est gratuit.
Ah, ça, c'est
un autre élément aussi intéressant, c'est que du coup en fait cette BD, donc qui est la première qu'on a réalisée, elle est éditée par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. C'est très long à dire, mais c'est le titre, qui est un service du ministère des Armées, qui est le ministère pour lequel je travaille, et qui a décidé d'éditer cette bande dessinée et de la distribuer gratuitement. Donc quand elle est sortie, elle a été à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en 2016. C'est ça? Je dis pas de bêtises, Mathieu. 2017, ouais.
Donc 2017. Je dis de bêtises,
mais t'as vu, je vérifie du coup.
La rigueur historique.
Exactement. Et là, elle a été distribuée à tous les jeunes visiteurs du mémorial. Donc c'est un peu plus de 4000 visiteurs quand même sur les 2 jours. Et elle a aussi vocation à être un document de promotion du mémorial. C'est-à-dire qu'il y a les infos pratiques à l'arrière, il y a des éléments historiques qui sont ajoutés en plus de la bande dessinée. Et c'est quelque chose qu'on distribue dans les bibliothèques lyonnaises, que des enseignants ont demandé de manière à pouvoir travailler et développer des projets autour. C'est distribué à des élèves qui remportent des concours de BD, le concours national de la résistance et la déportation. Bref, c'est vraiment un objectif de servir de document de promotion et tout en permettant à plusieurs personnes d'avoir un accès à ce genre de BD gratuitement et facilement. Donc si on veut l'avoir, il suffit de venir au Mémorial National de la prison de Montluc.
On te tape sur l'épaule et tu la donnes.
Voilà. Alors ce serait peut-être pas moi qui serais là à ce moment, mais il y a d'autres gens à qui on peut taper sur l'épaule. Et à ce moment, ils vous la donneront avec grand plaisir. Et le Mémorial National de la prison de Montluc, en plus pour rentrer à l'intérieur et le visiter, c'est aussi gratuit.
Voilà, t'as bien vendu le truc.
Quoi. Ouais. D'à côté, je vous avais annoncé. Hein.
ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un lien, vous allez voir, entre la première BD, votre rencontre, et les rues de Lyon. Mais on va faire une petite pause musicale. Ça fait un teasing, comme ça les gens sont obligés de rester.
Ok.
If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the borderline, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine.
See for me that her hair's hanging down, it curls and falls all down her breast. See for me that her hair's hanging down, that's the way I remember her best.
If you go when the snowflakes fall, when the rivers freeze and summer ends, please see for me if she's wearing a coat so warm to keep her from the howling.
If you're traveling in the North Country Fair,
where the winds hit heavy
on the borderline, please say hello to one who lives there, for she was once a true love of mine.
Et la causerie continue ce soir, comme tous les dimanches de 22 à 23 heures. On vient de s'écouter un titre, et donc, qu'est-ce que c'était?
C'était Bob Dylan et Johnny Cash, c'était Girls of the North Country.
Je savais que j'arriverais à te déstabiliser plus que tu me déstabiliserais.
Ça va.
Donc, et oui, parce qu'on est toujours avec Adrien et Mathieu. Et on parlait juste avant de la première BD qui était issue de l'histoire de Montluc. Mmh. Voilà. Et du coup, je crois que la plupart des auditrices et auditeurs savent pas vraiment ce qui s'est passé dans cette prison, à part la partie Seconde Guerre mondiale, parce que voilà, à Lyon, c'est assez connu. Tu peux nous faire un petit
historique.
Ouais, un petit historique.
Ouais, bon, rapide, hein, par faire contre. Ça, ouais.
Rapide,
parce que là, il faudrait plus d'une heure. rapide, c'est que effectivement, c'est plus connu pour la période de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une prison militaire à l'origine qui est construite en 21 et qui est construite dans le cadre d'une réorganisation de la justice à l'époque, juste après la Première Guerre mondiale, et qui va servir très très peu dans les années 20, les années 30. Elle va même fermer au début des années 30. Et elle réouvre ses portes en 1939 avec le début de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, on a une première période qui est en fait liée à l'état de siège et au début de la guerre entre la France et l'Allemagne. Et on n'a pas de combat sur le territoire français, ce qu'on appelle la drôle de guerre. Mais on a quand même déjà des juridictions d'exception qui vont être utilisées, à savoir l'état de siège, qui permettent de détenir des personnes qui sont considérées comme dangereuses pour la sûreté du territoire national, à savoir majoritairement à cette période les communistes suite à la signature du pacte de non-agression germano-soviétique. Voilà, pour être très précis.
Ah, mais tu es très précis.
Et ce qui est intéressant, c'est de voir que voilà, dès cette période, il y a un glissement répressif. Donc en fait, on n'attend pas vraiment l'arrivée des Allemands en France pour commencer à enfermer des personnes considérées, on va dire, comme dangereuses. Et ça va se confirmer après, puisque après l'arrivée des Allemands et l'arrivée de Pétain au pouvoir, en France, et principalement en zone libre, on va continuer à utiliser les juridictions militaires pour enfermer des personnes. Toujours des communistes, des anarchistes, des francs-maçons. Et à Montluc, on va avoir ce type de personnes qui vont être enfermées, victimes de ces juridictions. Une surpopulation, des personnes qui vont purger des peines assez longues pendant une première période, jusqu'à l'invasion de la zone libre par les Allemands. Et donc en 43 et 44, avec l'arrivée de l'armée allemande et des services de police, on va avoir une réquisition de la prison de Montluc au début de l'année 43 et qui va devenir... un réservoir d'otages, la prison militaire qui accueille toutes les personnes arrêtées par l'armée allemande ou la police allemande. En grande majorité, résistants, opposants politiques, réfractaires au service du travail obligatoire et les juifs arrêtés dans la région à partir de cette période, arrêtés par les Allemands.
Et alors, avant qu'il continue l'historique, ça c'est vraiment le cœur de, actuellement, les visites faites par des scolaires. Donc là, voilà, c'est en tant que prof d'histoire que j'en parle. Il y a vraiment, voilà, beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges, beaucoup voilà, d'établissements, de lycées qui emmènent donc des jeunes découvrir ces lieux, qui permettent voilà, d'aborder de manière assez sensible et puis historique donc cette période de l'histoire. Mais effectivement, c'est pas que la Seconde Guerre mondiale, et c'est notamment la suite, c'est notamment la guerre d'Algérie.
Alors la guerre d'Algérie, mais avant, autre chose, c'est que dès la libération de la prison, on a un inversement total, c'est-à-dire que la prison, elle sert à accueillir les collaborateurs, les criminels de guerre, français, allemands, et donc il y a vraiment, l'espace de quelques semaines, un inversement total où les détenus deviennent gardiens et les gardiens deviennent détenus. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est méconnu dans l'histoire de cette prison, et ça va aller jusqu'en 54. En 54, dans la prison, il y a toujours des Allemands, membres de la Gestapo, détenus à Montluc. Et à partir de 54, et ben là, effectivement, on rentre dans la période dont parlait Mathieu. On rentre dans la guerre d'Algérie, qui, pour être précis, va, au niveau métropolitain, ne commencer réellement qu'en 1958, avec la création d'un second front. Donc à partir de 58, le FLN décide de déplacer la guerre en métropole également, et on va commencer en août 58 à avoir des attentats contre des forces de police, contre des cibles stratégiques économiques. À Lyon, ça commence en septembre 58, et notamment, nous, c'est de là dont on est parti pour créer cette deuxième BD, en septembre 58, un attentat contre l'hôtel, le commissariat de police, place Antonin Poncet, à Lyon.
Voilà, que le lecteur peut reconnaître dès la couverture du numéro.
Alors moi, je vais le dire... Parce que c'est dur à la radio de décrire une BD. Pour moi, c'est juste, je suis lyonnais, alors, voilà, et c'est vraiment assez fabuleux la façon dont tu justement restituer les lieux. Enfin, moi, je trouve.
C'est parce que le scénar était bien écrit aussi.
Ouais, aussi, mais bon, là, c'est parce que tu voulais te remettre en avant. Mais
en tout cas, une moitié du scénar. En fait.
Non, mais c'est intéressant parce que je trouve, voilà, on a toujours, moi, j'ai toujours une crainte un peu, voilà, des fois un petit côté. Je mets trois coups de crayon et vous avez reconnu. Non, en fait, tu es rentré dans un niveau de détail qui est assez impressionnant, je trouve, par rapport à d'autres BD que j'ai pu lire sur Lyon ou autre.
Eh bien, tant mieux. Merci. Non, mais ça me fait plaisir parce que, en plus, pour tout dire, moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans l'animation des personnages. À la base, les décors, la mise en place des décors, le travail sur les décors, c'est beaucoup plus laborieux. Enfin, c'est plus de difficultés. Et voilà, ben je suis content si ça a pu rendre effectivement voilà. D'ailleurs, mais il y a eu beaucoup de travaux, et là encore le Christophe là qui a fait la maquette a joué aussi son rôle pour qu'on, parce que
tu veux dire qu'il est pour rien en fait.
Non, pas tout à fait. Non, mais elle est vraiment il y a des petites choses à changer, à bouger pour qu'on ait sur une couverture comme ça, le titre rentre, qu'on ait assez d'espace, qu'en même temps on reconnaisse le décor, que donc faut même bidouiller un peu parfois avec la réalité pour avoir ce rendu. Et si le lecteur s'y retrouve, comme vous dites, c'est parfait. Effectivement, il y avait des le but un peu aussi des rues de Lyon, c'est que on n'évoque pas une histoire un petit peu comme ça déconnectée du territoire, mais que voilà, en se baladant après dans Lyon, on retrouve quoi. Donc là, la place Antonin-Poncet, le commissariat de la rue Vauban, donc la prison de Montluc, mais aussi donc le tribunal militaire. Tout ça, c'est des choses qu'on a vraiment essayé de rendre.
Vois, sur ce que tu dis, on s'y retrouve. Moi, clairement, et je rends hommage à Mathieu ici, parce que je veux bien le chambrer, hein. on l'a déjà assez fait.
On l'a plus fait hors antenne, alors je sais pas si les lecteurs sont encore.
Ouais, mais on a senti qu'il y avait un petit ton. Mais moi j'ai été aussi carrément emballé par le dessin de Mathieu. Au-delà du fait qu'on s'entendait bien et qu'on a commencé à travailler ensemble là-dessus, je pense que s'il avait pas eu un dessin sur lequel j'accrochais, on aurait eu beaucoup plus de mal à collaborer. Donc autant sur la première, déjà je trouvais ça intéressant. Sur la deuxième, je trouve qu'il y a eu un grand effort fait de dessin, et je trouve que le rendu est super aussi.
Parce que du coup, moi ce que je trouve intéressant, c'est le premier projet que vous aviez proposé pour les rues de Lyon, c'était quoi en fait? C'est celui qui n'a pas été existé, du coup.
Alors, il a existé, mais il a existé en dehors des rues de Lyon. Voilà, donc
remettons un peu les choses, parce que vous dites que vous vous connaissez depuis un moment, que vous faites des choses ensemble depuis un moment, enfin de la BD ensemble, finalement. Mais du coup, il y a eu... Donc, le premier projet, c'était celui qui n'a pas été édité, du coup, par les rues de Lyon. C'est Songe à Montluc.
Ouais, parce qu'à l'origine, c'est du coup quand Mathieu a eu connaissance de la revue, il dit on pourrait essayer de présenter un projet, de proposer quelque chose, d'autant plus que lui travaillait sur les décors liés à sa bande dessinée sur André de Vigny dont on a parlé tout à l'heure. Je lui ai dit ça pourrait être assez intéressant. Donc on s'est retrouvé autour d'une bière dans un bar. Ce qu'on vous disait en préparation, c'est là où on est quand même le plus efficace et où on a fait beaucoup, une bonne partie de nos scénarios.
Au storyboard.
Oui, également.
Et nos bulles de bois. Enfin bon.
Non, on va pas jusque là parce que quand même on veut réussir à travailler. Mais donc on a eu cette idée d'une détenue dans la prison Montluc en 2009, la veille de la fermeture, qui s'endort et se retrouve seul dans la prison et va déambuler et retomber sur différents détenus des différentes périodes dont j'ai parlé tout à l'heure.
Et effectivement, on a construit ça sur 10 pages pour le format rue de Lyon. Et donc on l'a envoyé, donc on leur a proposé, et ils nous ont répondu de manière extrêmement détaillée, que ça allait les intéresser, qu'ils avaient trouvé des choses bonnes, mais eux, ils s'y retrouvaient pas par rapport à la ligne, on va dire, un peu éditoriale, dans le côté un peu onirique qu'on avait mis, peut-être ce rêve, sur le temps que prenait l'installation du personnage. Et donc voilà. Et par contre, ils nous disaient, ça a quand même, ça ressemble à quelque chose, vous pouvez nous proposer autre chose, ou faire partie de l'association. Faire partie de l'association, ça implique, ce qu'on a dit, s'impliquer, les livraisons, etc., toute une série de, plein de manières de donner de son temps, dont on n'avait ni l'un ni l'autre à l'époque, justement, le temps. Donc, on a repoussé cette collaboration possible avec les rues Lyon. Et c'est effectivement cet automne-là que moi, je suis rentré dans l'association, et qui s'avérait visiblement, il y avait peut-être possibilité de faire un numéro au cours de l'année à venir. Et donc, j'ai dit à Adrien, là, est-ce que tu ne retrouverais pas, dans les archives de Montluc, un autre sujet, quelque chose, Et c'est là que donc il a trouvé des éléments sur cette histoire portant sur la guerre d'Algérie, qui était quelque chose qui n'avait pas été traité encore dans le cadre des rues de Lyon. Ah, ça laisse sans voix.
C'est clair, ça m'a fait bloquer aussi, moi. Par contre, moi, je voulais préciser quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. C'est que tu intègres l'épicerie séquentielle. Moi, je suis pas membre de l'épicerie séquentielle.
Oui, c'était ce que tu disais à la prépa.
Voilà, parce que c'est aussi quelque chose d'important. Moi, c'est vraiment un concours de circonstances. Si je me retrouve à co-scénariser des bandes dessinées avec Mathieu, j'ai pas vocation à devenir scénariste de bandes dessinées. Mon travail, j'en ai déjà parlé, et ça a été un grand plaisir de faire ça. S'il y a d'autres projets parallèles qui pourront se développer éventuellement, alors que Mathieu, lui, c'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Je veux dire, au-delà de son métier d'enseignant, c'est vraiment une autre partie de sa vie. Donc moi, je ne suis pas membre de l'épicerie séquentielle, mais j'étais quand même extrêmement heureux qu'il publie cette bande dessinée.
Oui, on l'aura compris, toi tu apportes le sérieux, et bon, lui c'est un peu l'artiste qui colorie, quoi.
Ouais, c'est un peu réducteur.
Il faudra une troisième édition pour revenir là-dessus.
Et en fait, alors, est-ce qu'on a dit le format en fait, des rues de Lyon? C'est 10 pages. Et alors,
c'était au début de l'émission qu'il l'a dit, donc ça date, hein, ça fait 30 minutes.
Mais arrêtez. Non.
Allez, avant de faire.
Non, et alors, je vais peut-être pas être dans l'ordre, etc., mais je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'en 10 pages, c'est quelque chose de très condensé. On va suivre un personnage, enfin, non, quelques personnages, mais d'un groupe commun. Et c'est en 10 pages, on va. Enfin, ouais, c'est ça, c'est un condensé d'histoires et c'est vraiment prenant. Enfin, moi, je trouve que c'est très prenant. Alors, peut-être qu'on peut rester un peu sur sa fin en se disant merde, peut-être qu'on aurait voulu avoir un peu plus de détails et que peut-être une idée, je sais pas, prochainement pour essayer de faire plus de pages, j'en sais rien, mais c'est vraiment. Enfin, moi qui suis une buse en histoire, etc., etc., je trouve que c'est super bien foutu. Enfin, je trouve que c'est un rythme vraiment soutenu et très, très agréable.
Bah, c'est une contrainte aussi. Hein. Quand on a un format de 10 pages, on sait qu'on doit tout boucler en 10 pages. Et mine de rien, quand on a rédigé le scénar et qu'on a fait les storyboards, ça a été aussi un élément extrêmement important et compliqué du travail.
Avec effectivement l'intention que ça dise beaucoup de choses, mais que ce soit pas hyper didactique, un peu lourdingue, avec un peu l'ambition de quelque chose d'un peu cinématographique, avec des, voilà, un peu flashback, un peu qui bouge. Mais là-dessus est venue la contrainte, sur les conseils donc d'autres membres de l'épicerie, d'ajouter un élément de contexte. Parce que, ben, comme tu viens de le dire, tout lecteur qui débarque dans cette histoire, s'il n'a pas un petit peu derrière quelques éléments sur la guerre d'Algérie, il s'y retrouve beaucoup moins. Et donc, il y a eu l'enjeu de faire... la page 3, la planche 3, donc qui fait une synthèse sur la guerre d'Algérie, qu'on a lancé d'abord en 2 pages. Mais alors là, pour le coup, si on fait 2 pages de synthèse comme ça, ben on perd beaucoup de choses.
Puis moi, j'étais pas du tout d'accord.
Ouais, alors c'est pas comme si je l'avais défendu à mort.
Une page, ça suffisait largement.
Mais donc voilà, c'était beaucoup de défis. Et puis il s'agissait aussi du coup de faire tenir du texte là-dedans. Et donc en BD, par rapport à un livre ou un film, on a par-dessus la contrainte de la police d'écriture, de la taille de ce qu'on va mettre là-dedans. Là, il fallait que ce soit suffisamment donc condensé, petit, pour cette page de synthèse. Mais pour d'autres pages, à la limite, ça fonctionnait moins que d'autres. Donc là, il y a eu pas mal de boulot et pas mal de transpiration là-dessus. Et puis à l'arrivée, il y a la satisfaction d'avoir trouvé une police manuscrite. En plus, donc c'est moi qui l'écris. Du coup, c'est quelque chose quand même qui est sympa parce qu'il y a vraiment un lien avec le dessin. Et après avoir testé pas mal de polices informatiques comme ça, il s'est avéré que c'est celle-là qui fonctionnait le mieux. Et ouais, non, là, au bout du compte, sur l'aspect graphique de cette BD, on n'a pas de regrets. Voilà, peut-être qu'on en aura plus tard, mais pour l'instant, on a l'impression d'avoir fait ce qu'on souhaitait faire. Et ça c'est très agréable. Et c'est vrai qu'on a bénéficié, en faisant partie désormais de l'épicerie, avec des gens qui sont professionnels depuis plus longtemps, justement, d'un petit pas, une petite marche vers quelque chose de pro, et qui se sent quand même entre les deux albums, je pense.
C'est pour ça que le premier est gratuit. Oh, ça va, c'était facile.
Il y a une explication plus complexe.
Tout à fait.
Non, mais voilà, on aime vraiment ces deux réalisations. Mais là, c'est vrai que voilà, sur le graphique, pour l'instant, voilà, on est content.
Donc, alors, je vais peut-être reposer une question qui a déjà été posée en début d'émission, mais je n'étais pas là. Non, et justement, en fait, donc toi, quand tu bosses sur ta BD, en fait, à l'épicerie séquentielle, il y a une notion d'entraide, en fait. Est-ce que toi, avec tes dessins, avec ce que tu fais, tu peux aller voir d'autres en disant qu'est-ce que t'en penses là? Enfin, il y a vraiment cette notion-là?
Ah ben, tu peux, et tu peux aussi t'en passer.
Oui, tu peux. Okay.
Donc, il n'y a pas non plus une pression. Non. Par contre, il y a le regard, effectivement, il y a un groupe de suivi, il faut que tout soit validé petit à petit. Okay. Le sujet, ensuite l'histoire, ensuite le storyboard. On n'est pas derrière toi sans arrêt pour faire tes dessins. On te fait aussi des remarques, et puis t'es pas obligé non plus, parce que c'est pas forcément celui qui fait la remarque qui a raison. Mais quand même, voilà, il y a ce regard. Et effectivement, voilà, on fait évoluer ensemble l'œuvre qu'on est en train de réaliser.
je vous propose une petite coupure musicale et on revient ensuite pour expliquer un petit peu ce qu'étaient les mesures d'exception par rapport à Montluc.
Et vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et surtout de la causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h. Nous sommes toujours en compagnie de Mathieu et Adrien. Et est-ce que l'un de vous pourrait nous dire ce qu'on vient d'écouter d'ailleurs ?
On vient d'écouter Here Comes Your Man des Pixies.
Et vous avez choisi les musiques comme toujours quand on a des invités. Ben, je garde la parole. Justement, on parlait de second front. Lyon dans la guerre d'Algérie, c'est ça? Je dis une bêtise, non?
C'est
non,
ça.
C'est ça. Et du coup, c'est dans quel climat ça s'inscrit en fait le second front? Parce que tu parlais tout à l'heure de la prison Adrien, de la prison de Montluc et du fait que pendant la Seconde Guerre mondiale, même juste au début, il y avait déjà des mesures d'exception qui faisaient que. Et là, on est dans quel climat au moment où ce second front apparaît en métropole, comme on disait à l'époque?
Ben, on est dans le climat comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'un conflit qui s'installe en métropole, et du coup il y a une réaction de répression qui va être juridique, puisque dans le cadre des pouvoirs spéciaux, on va mettre en place des juridictions qui vont permettre de condamner les personnes, une fois de plus, considérées comme dangereuses, pouvant atteindre la sécurité intérieure ou extérieure de l'État. Et c'est surtout que c'était les tribunaux correctionnels qui jugeaient ces personnes jusqu'à maintenant. Et à partir donc de septembre 58 en France et à Lyon, c'est les tribunaux militaires, donc les TPFA, tribunaux permanents des forces armées, qui vont récupérer ces affaires liées à la guerre d'Algérie. Donc tout Algérien ou Français qui va être arrêté dans le cadre d'activités militantes, manifestations, attentats, transferts d'armes, ce genre de choses, sera jugé par un tribunal militaire. Et on va utiliser cette juridiction pour condamner énormément de personnes. Et c'est ça qui nous a intéressé, quand Mathieu expliquait tout à l'heure, il faudrait qu'on trouve un sujet, c'est cette période de la guerre d'Algérie, à Lyon, elle est extrêmement méconnue, et le rôle de la prison de Montluc est encore plus méconnu, puisque c'est vraiment une prison qui occupe, avec le tribunal militaire à côté, une place centrale en France, pas seulement dans la région lyonnaise, notamment au niveau des condamnations à mort, puisque dans le cadre de ces TPFA, on va avoir en un tout petit peu plus de 3 ans, 113 condamnations à mort qui vont être prononcées à cette période, 75 condamnés à mort vont être détenus à Montluc, 13 vont être guillotinés, dont 11 dans l'enceinte de la prison. Et juste pour donner un ordre d'idée, on a 24 exécutions au niveau national sur toute la période. Donc il y en a 13 rien que pour Lyon, 11 guillotinés à Montluc, ce qui veut dire qu'il y a plus de la moitié des peines de mort qui ont eu lieu à Montluc. Donc ça donne vraiment une idée de l'ampleur et du rôle de la prison et du tribunal, ce qui est quelque chose d'extraordinaire. Après, je précise, on est sur la France métropolitaine, oui. Sur le territoire algérien à la même période, il y a beaucoup plus d'exécutions.
J'allais ajouter que dans cette idée là d'évoquer donc cette période de la guerre d'Algérie à Lyon, là justement on s'est centré sur une affaire qu'on suit donc comme ça un peu de bout en bout, qui a été particulièrement marquante puisque suite à l'arrestation donc de ce groupe de choc qui avait accompli l'attentat à Antonin Poncet, qui a eu un procès, des condamnations, il y a eu une mobilisation médiatique pour l'époque, et de diverses associations, souvent assez liées au Parti communiste, des associations de résistants également, contre le principe de l'exécution. Et donc Lyon a été un peu au cœur là, d'une mobilisation internationale qui a poussé jusqu'à Khrouchtchev, jusqu'à le roi du Maroc, jusqu'à vraiment toute une série de personnalités. Et donc nous, on avait que 10 pages, on s'est concentré là-dessus. Mais on n'a pas abordé la question de la vie des Algériens présents à ce moment-là en France, souvent ouvriers, qui étaient venus donc comme travailleurs et qui étaient un enjeu, notamment dans la lutte entre le FLN et le MNA, les deux partis indépendantistes qui tâchaient justement, de toucher cette population, pour le FLN de prélever un impôt lui permettant donc d'accomplir ses activités. Et cette question de la vie, être algérien ici, qui est au centre des travaux de Marc André, qui est un historien qui nous a fourni un certain nombre d'informations et puis un regard sur ce qu'on était en train de faire. Alors cet aspect de la vie des Algériens, il y aura sans doute un autre numéro des rues de Lyon qui sera réalisé un peu plus tard par d'autres auteurs et par Swan Merali en particulier, qui a réalisé d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Algérienne, une bande dessinée là qui est sortie il y a peu de temps. Mais nous donc voilà, on est resté sur cet aspect-là central et qui rejoignait la prison de Montluc. Et en fait voilà, tout ça nous a été possible parce qu'en fait les archives sont tout à fait accessibles. Et c'est important de le dire, la guerre d'Algérie n'est pas un tabou. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas traiter. Nous, on n'a aucun rapport, en fait, tous les deux, avec l'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est pas quelque chose où on vient régler un compte de mémoire. On n'a pas de parti pris. On fait un travail d'historien, on s'intéresse à montrer, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, pourquoi, quels ont été les enjeux, quels ont été qu'est-ce qui a été à la source des actes des différents acteurs, justement, de ce moment-là. Et on a pu travailler donc sur les minutes du procès, sur les journaux de l'époque, le Progrès, alors, et puis d'autres, ouais, d'autres archives là, que tu as pu récupérer.
C'est aussi pour ça qu'on a, on a choisi de prendre le parcours d'une personne, parce qu'on voulait rester dans cette rigueur historique, Mathieu l'a expliqué, on ne voulait pas donner notre avis sur la guerre d'Algérie. C'est, on suit le parcours de cette personne. Pourquoi on l'a choisi lui ? À l'origine, moi, quand Mathieu m'a demandé de travailler sur un scénario, une idée de scénario là-dessus, c'était de parler d'une des 11 personnes qui a été exécutée à Montluc. Après, il fallait trouver quelque chose qui donnait envie d'aller plus loin d'un point de vue scénaristique. Et c'est cette campagne médiatique dont Mathieu vient de parler qu'on a trouvé particulièrement intéressant. Donc c'est là où je lui ai parlé de ce sujet. Et là aussi où je suis entré en contact avec Marc. Donc Marc-André, l'historien dont Mathieu a parlé, qui nous a beaucoup aidé. On le remercie là d'ailleurs s'il est à l'écoute. Pour pouvoir parler de cette personne et en parallèle de parler de ce qui s'est passé à la même période ici à Lyon de manière générale.
Et alors c'est ce qui était un petit peu dur avec cette page de synthèse là, la planche 3, c'est qu'on aurait envie de dire beaucoup plus de choses, de nuancer beaucoup plus de choses. Et alors moi je suis déjà confronté en tant que professeur d'histoire en troisième avec un programme qui laisse peu d'heures à cette question de la guerre d'Algérie. Alors moi j'explose quand même le temps parce que je considère que c'est un enjeu trop fort dans notre société aujourd'hui. Mais là voilà, sur cette planche 3, ben voilà, on a dit ce qu'on pouvait dire, mais voilà, c'est évidemment un sujet, la guerre d'Algérie, qui mérite des pages et des pages.
Faut que ça donne envie aux gens d'aller voilà. voir d'autres choses aussi et de lire voilà. d'autres choses mais sur la guerre d'Algérie.
Mais c'est le cas, hein. Enfin, je le dis. Non, mais voilà, c'est ce qui est intéressant. Enfin, pour moi, finalement, on parlait de la contrainte des 10 pages. Alors, c'est d'un côté une contrainte, et je trouve que de l'autre côté, c'est aussi un excellent moyen de pousser à aller chercher par soi-même, à se dire mais pourquoi on nous a parlé de cette personne plutôt que d'une autre. Et on peut peut-être donner son nom. L'ordonner.
Oui, ce serait pas mal.
Ce serait bien,
c'est Abderrahmane Lakhlifi, ouais. Donc, qui a été chef de ce groupe de choc qui a accompli l'attentat place Antonin-Poncet en 58.
Parce que du coup, moi je trouve, voilà, c'est ça, c'est le côté, comme disait Jean-Yves, très ramassé, donc très haletant finalement, quelque part, donne après envie d'ouvrir un petit peu sur d'autres choses, d'aller chercher d'autres choses. Et c'est drôle parce que moi je me disais, c'est un peu comme une émission de radio qu'on fait avec vous, où là je pense que plein de gens vont se dire après, oh, ils auraient pu parler de plus de trucs. Et voilà, et ça fait pareil, on peut donner l'envie d'aller picorer ailleurs et puis de chercher, d'aller au mémorial de Montluc qui est gratuit.
Et où on parle de la guerre d'Algérie, voilà. Également, même si c'est pas le cœur du mémorial à l'origine, on en parle aussi, quoi, et on le fait de plus en plus.
Et c'est important parce que c'est pas une page anodine de l'histoire, au sens large, et pas que de l'histoire de France. Et comme tu disais, ce qui moi m'a étonné, c'est justement que il y a ce côté, après la prépa, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas du tout. Et encore une fois, il y a encore la notion de Lyon, cette grande bourgeoise endormie, hein, c'est le comme ça qu'on appelle la ville, où on a l'impression que rien ne s'est jamais passé, en fait, de seul coup. Et Adrien, tu soulignais, en fait, c'est quand même ici que plus de la moitié des exécutions pendant la guerre d'Algérie ont eu lieu. On découvre pareil un peu dans l'histoire, c'est pareil avec Klaus Barbie où on découvrait ce qui s'était passé longtemps après, on se dit mais c'est passé ça à Lyon, enfin c'est, et je trouve c'est intéressant justement d'ouvrir, que vous ouvriez des pistes avec un média, la BD, qui est pas toujours connu pour ça, en fait, voilà.
Mais après ça sert à ça, hein, ouais. Justement, autant le lieu en soi est connu à Montluc pour être ce lieu emblématique de l'occupation allemande, mais par une programmation culturelle, par des conférences, par des pièces de théâtre, par des films, par des BD, ça permet justement d'aborder d'autres sujets, et puis de voir Montluc plus comme une histoire globale, où entre 21 et 2009, les gens qui se retrouvent à Montluc, pour beaucoup, c'est les reflets des troubles sociaux et politiques qui se passent à l'extérieur, et notamment à Lyon. Lyon, capitale de la résistance, ça tout le monde connaît, mais d'un point de vue des exécutions, Lyon, capitale de la guerre d'Algérie en métropole aussi, ouais. C'est quelque chose d'important.
Et par rapport, juste une petite anecdote par rapport au lieu là, enfin à Lyon, faut savoir que donc dans le cadre de l'épicerie séquentielle, les envois des numéros vers les abonnés sont notamment faits par les auteurs du numéro est envoyé, voilà, donc comme ça tourne.
Rappelle, parce que c'est de l'autogestion et que vous faites tout, en fait.
Voilà. les auteurs emmènent à la poste, qui est toujours ici Antonin Poncet, qui est toujours ce bâtiment là qu'on voit, on emmène les numéros qui vont partir et on a une deadline vraiment vraiment importante parce que bon, il y a des accords avec la poste financièrement, etc. Et donc il faut pas se louper, il faut arriver tac. Et là, là celui-là on l'a emmené juste à temps. Et en fait on est obligé, pour les Lyonnais ils voient peut-être bien le parcours qu'il faut faire, la routier pour passer devant, c'est à sens unique. Donc en fait on s'est retrouvé avec la voiture, alors c'est avec Christophe là le magasin.
C'est pas la même voiture que sur la
couleur. C'était pas celle-là, mais on s'est retrouvé juste au moment d'en finir en fait avec tout ça, de déposer le numéro à la poste, on s'est retrouvé exactement comme sur l'image de couverture, voilà. Et c'était assez sympathique.
Est-ce que oui, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la dernière petite partie.
Pour la dernière partie de la causerie, je sais pas, il me faisait un jeune chant. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter? Parce que vous avez choisi 4 morceaux, on en a écouté 3.
Et ben, on a écouté Les Cure, In Between Days.
Ouais, parce qu'on est avec vous pour parler d'une super BD. Voilà. Merci. Le numéro 38 des rues de Lyon, c'est Adrien ça. Et Mathieu.
Oui, quoi? C'est ça.
On regarde bizarrement ce soir. C'est très étrange.
Non, et on voulait, dans cette dernière partie, on voulait parler. Plus strictement ton boulot à toi, Mathieu, parce que bon, Adrien l'a quand même beaucoup entendu. Non, je plaisante, je préfère prévenir les auditeurs et auditrices. Ouais, enfin, parce que justement, en fait, le temps que tu proposes l'idée et qu'on te dise oui et la date de sortie, ça s'est passé en très peu de temps.
Ouais, là, c'est vrai que ça a été un peu exceptionnel. Donc, de fin novembre, voilà, moment où on sait avec Adrien qu'on peut prendre l'histoire. Bah, d'ailleurs, pour la petite histoire, il fallait, voilà, dire à l'épicerie si c'était possible. Et j'envoie un message à Adrien lui disant bon, essaye de me répondre le plus vite, dans les 4-5 heures, j'enverrai, je dirais que c'est bon, quoi. Puis bon, je me suis dit que ce serait un petit peu dommage de passer à côté parce qu'on aurait un peu traîné. Donc au bout d'une demi-heure, j'ai dit OK, c'est bon. Et puis après, heureusement,
ça,
Adrien.
Je l'apprends en direct.
Heureusement, après Adrien, donc a confirmé, donc c'était parfait. Et donc on a pu travailler devant notre verre de bière là, effectivement. Et c'est vrai qu'on fonctionne bien. Déjà sur l'autre numéro, l'avantage qu'on a, c'est qu'on arrive à travailler vite ensemble. À écouter les idées de l'autre et en fait à aller surtout assez vite dans le même sens. Et le storyboard, il est sorti vite, ce qui était très important, puisque donc fallait que ce soit validé, fallait ensuite la couverture, parce qu'à l'époque, alors là c'est en train de changer, mais la couverture du numéro suivant était mise sur le numéro précédent, en quatrième de couverture. Donc il fallait sortir la couverture avant les fêtes. Et donc voilà, ça a été un petit peu la course. Puis après, pendant les fêtes, ça a été pas trop la fête, parce que voilà, il a fallu travailler un peu non-stop. Mais avec des choses qui se sont mises en place, avec globalement les personnages qui sortent bien, le style qui prend bien apparemment. Et du coup, finalement, ça a été beaucoup de travail, mais pas vraiment dans la douleur. Là, pour le coup.
Et puis beaucoup de travail. Autant le scénar au début, on a travaillé ensemble et moi, ça m'a pris du temps, effectivement. Mais comparé au travail que ça a représenté pour Mathieu après, en termes de dessin pendant les fêtes, c'est là où être co-scénariste, c'est quand même un travail moins important d'être co-scénariste et dessinateur.
Voilà. Donc là, ça a été une grosse négociation en antenne, mais. Non, mais c'était c'est vrai que c'était dur de finir dans les temps, de faire quelque chose de bien, mais il y a en tout cas, comme je disais, il y a pas eu de regret, quoi. Il y a pas eu de nécessité de laisser tomber un aspect graphique auquel j'aurais tenu, et donc ça c'est satisfaisant.
Et d'ailleurs, tu travailles comment, toi? Parce que il y en a maintenant qui travaillent sur tablette, il y en a qui font ça à main levée comme ça sur un bout de.
Alors, il faut pas le dire avec ce ton-là, hein, parce
non,
que
non,
ça
je
peut
te
être.
Il y a plein de façons de travailler, c'est ce que je voulais dire.
Enfin, oui, c'était pas un vrai reproche que je te faisais, mais c'était pour dire effectivement que
il est influençable. Dans le cadre de l'épicerie,
voilà, il y a des et c'est ce qui est intéressant pour les lecteurs aussi. Et ça vaut le coup de s'abonner parce qu'il y a pas de déception comme ça. Il y a à chaque fois un travail différent.
Oui, c'est
à
ça,
chaque
en
fois
fait.
Voilà un auteur. Alors il y a des auteurs qui en ont déjà donc fait plusieurs. Le prochain auteur, l'auteur du mois de mars, là, Ben Reiss, le dessinateur, il avait fait le premier numéro. Donc c'est le moment des anniversaires, hein, c'est un peu comme les 5 ans de la causerie, il y a à chaque fois un style et une façon de travailler et qui peut utiliser plus ou moins effectivement l'informatique. Alors moi, je peut-être ce côté historien, je travaille beaucoup avec mes petits crayons, mon canson, mais donc je travaille sur un canson normal au départ, puis après je scanne mon noir et blanc, je le fais imprimer sur un papier spécial qui est assez épais mais qui est opaque, donc sur lequel on peut plus travailler avec une table lumineuse, là ces tables qui permettent de faire de la transparence et pouvoir retravailler ces crayonnés. Et donc ça donne une feuille blanche avec un beau noir et blanc dessus, et je travaille là-dessus ensuite mes couleurs avec des feutres à alcool qui donne un rendu qui me plaît bien. Et par contre, il y a pas le droit à l'erreur, parce que sur cette planche comme ça qu'on a retirée, si c'est tu rates ta couleur, t'en refais une, quoi. Il faut réimprimer quelque chose en noir et blanc. Donc il y avait un peu d'enjeu là aussi quand même avec le temps qui passait de pas trop se louper.
Un peu de stress du coup, non?
Il y avait un peu de stress, mais alors il y a eu un moment. J'ai commencé par rater mes couleurs une première fois, et là ça a été le seul moment où il y a eu un peu d'accablement et du coup de fatigue. J'étais le seul moment où j'étais à la donf, et puis d'un coup
comme Jean-Yves ce soir, en fait
un petit peu pas autant quand même.
Mais surtout qu'il m'a appelé à ce moment-là, je lui ai remonté le moral et il a rebondi.
Ça va, alors.
Voilà, on allait prendre une bière, on a fait un petit travail sur scénario. Non,
vous savez ce qu'il vous reste à faire, appelez-moi, quoi.
Je sais pas si boire une bière tu réussis à...
Et en fait ça a duré une après-midi, parce que ensuite j'ai repris une autre planche, et sur cette planche les couleurs ont réussi à bien se mettre en place, l'ambiance est apparue, et une fois un peu en fait que t'as les bons accords, la bonne ambiance, au moins d'une des planches, mais finalement ça se répercute sur les autres. Et après ça a été un travail, ben voilà, il fallait du temps, mais ça se faisait bien, ça avançait, et donc voilà, ça n'a pas été de la douleur.
Et alors, et toi en fait, ta technique, enfin, on va un peu déborder de tout ça, mais toi ta technique, tu la penses figée, ou c'est justement quelque chose qui, au départ t'avais pas du tout ça, et tu trouves peu à peu tes marques, ta technique, ou est-ce que...
Alors pour les couleurs en fait, ouais, c'est un éditeur avec lequel j'étais en contact pour la BD sur André de Vigny, que je faisais à l'aquarelle, qui n'a pas souhaité, dans le cas où il s'engagerait, l'éditer à l'aquarelle, et qui m'a dit de tester autre chose. Et pour voilà, fournir autre chose, cet éditeur, il voulait pas qu'il y ait trop de traces en fait, d'effets comme ça qu'on peut chercher avec l'aquarelle. Et ben voilà, je suis tombé sur ces feutres, j'ai testé, et voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal, qu'on pouvait rendre des effets quand même, des reliefs, des contrastes, mais tout en ayant parfois des aplats qui rendent la lecture, je pense, très visible, enfin assez aisé, et voilà. Et donc voilà, j'en suis là. Sur la BD de Vigny, j'étais pas en train de faire les encarts de voix off, on va dire, avec la police que j'ai utilisée ici, et là ça fonctionne bien, les encarts un peu souples comme ça. Donc voilà, ça je pense que je les réutiliserai du coup. Et donc pour te répondre, ben oui, c'est tout à fait évolutif, effectivement.
Merci.
On arrive au terme de cette émission, parce que quand même, à un moment donné, il va falloir qu'on se quitte, hein, c'est parce qu'on a d'autres choses à faire. Et
je plaisante. Mais il faut lire, il faut maintenant relire, bah oui, et relire.
Relire.
Voilà, c'est
ça. Mais alors, du coup, on va revenir un petit peu sur toi, Adrien, et sur le mémorial de Montluc, parce qu'on n'a pas donné les horaires, comment on peut y aller, tout ça.
C'est dans le 3e, à côté de la manufacture des tabacs. C'est situé au 4 rue Jeanne Hachette. De toute façon, tous les renseignements sont sur notre site internet, hein, mémorialmontluc.fr. Et le site est ouvert au public gratuitement du mercredi au samedi, de 14h à 17h30. Il y a une visite guidée également, gratuite, à 15h30, sans réservation. Donc n'hésitez pas à venir découvrir ce site, qui est vraiment un lieu extrêmement important dans l'histoire lyonnaise.
Et ben voilà qui est dit. Et donc moi je vais le redire, si vous avez envie de découvrir justement deux parties d'histoire lyonnaise, on va vous conseiller de vous procurer Songe à Montluc pour en savoir plus sur Montluc. Et là il faut aller aux horaires que tu as donné, tout ça. Et aussi bien sûr le numéro 38 des rues de Lyon, Second Front, la Lyon dans la guerre d'Algérie, parce que c'est deux pans de l'histoire lyonnaise qui sont complètement méconnus, et c'est bien de les... Voilà, de les prendre en main et d'élargir ensuite tout ça. Et tu voulais dire des choses sur l'épicerie séquentielle?
Ben oui, que effectivement, si on veut dépendre de l'histoire lyonnaise, ben faut pas hésiter à lire aussi les autres numéros.
Ah vas-y, je t'attendais une perche un peu.
À sa monnaie, voilà. Et oui, je me serais fait taper sur les doigts si je l'avais pas saisi, donc voilà. Ça vaut le coup d'aller sur le site donc de l'épicerie, qui organise pas mal d'événements, également des soirées parfois avec un auteur qui vient parler de ses travaux. Il y a toutes sortes de projets donc qui peuvent être connus à travers le site. Et puis on est présent sur quantité de festivals, et notamment au moment du Lyon BD Festival en juin. Donc voilà, suivre l'épicerie séquentielle, ben ça permet, voilà, si on aime la BD, de se faire plaisir au niveau BD, et puis si on aime l'histoire de Lyon, de se faire plaisir aussi. Donc c'est d'intérêt public.
Et je vais le dire aussi, il y a aussi des superbes coffrets annuels que vous faites,
oui,
qui regroupent les 12 numéros de l'année et qui sont vraiment vraiment très bien.
C'est très bien dit.
Ah ouais.
Et je vais encore paraître complètement à côté, mais vous aviez donné un site internet, etc.
Ah, pour l'épicerie séquentielle.
Le site de l'épicerie séquentielle.
Voilà.
Ouais, ok, d'accord.
Il faut que je donne l'adresse.
Ouais, ouais. Ce serait cool, quoi. Enfin,
allez, donc.
L'épicerie séquentielle sur Google.
Ouais, on va faire ça.
le pire, c'est qu'il vient de se rendre compte que ce n'est pas écrit.
www.épicerie-séquentielle, voilà, voilà, et puis ainsi de suite.
Voilà, ainsi de suite. Point, ainsi de suite.
Ça fait pas ainsi de suite.
Non, mais ça s'appelle point comme abonnement, point comme point de vente, point, etc.
Je crois que Clara, elle a dit non, c'est pas possible. Tu voulais. C'est pas assez précis?
Pas vraiment, mais bon. On tape sur Google et puis voilà.
Voilà, ou sur Ecosia, non, ou sur un autre.
On domine le net, donc il n'y a pas de problème. Voilà, vous.
Ok. Et est-ce que vous vouliez ajouter.
Il y a autre chose sur l'épicerie séquentielle qu'il n'ose pas dire, parce qu'il est à la radio, il se dit on ne peut pas le dire, c'est qu'on passe sur une autre radio, mais si on peut le dire, Voilà. Donc les biscuits séquentiels est aussi présente
sur Lyon Première, effectivement. Merci de nous faire penser à le dire et de nous permettre de le dire. Donc effectivement, et on va, ben voilà, il y aura quelques minutes qui seront consacrées encore à Second Front et qui seront écoutables via Lyon Première ou sur le site de Lyon Première, puis également ensuite sur le site de l'épicerie séquentielle.
T'as même les horaires là qui sont écrits.
Alors, donc, entre 8h20 et 9h20, mais je ne suis pas sûr que ce sera ce coup-ci exactement le même horaire, donc voilà, pour ça je ne m'avançais pas.
Ah bon, ben, c'est pas comme
la rigueur.
Ah oui, voilà.
Et est-ce que vous aviez, vu que ça va, oui, on est bientôt l'heure de se quitter, est-ce que vous aviez un mot, un bonjour, un merci, un au revoir à passer? Ou plusieurs d'ailleurs.
Moi je vais embrasser Luna et Léo.
Et ben,
m'accompagner
voilà.
Mon fils.
Voilà, et moi je vais embrasser Lisa qui donc a fait preuve de beaucoup beaucoup de patience pendant ces 2 mois et demi de travail et voilà, alors ça fait toujours c'est un peu convenu de dire sans qui rien n'aurait été possible, etc. Mais là voilà, il y a eu vraiment vraiment merci. Et puis ben on remercie une nouvelle fois, on en a parlé plusieurs reprises, mais Christophe donc qui a réalisé la maquette et qui a vraiment beaucoup bossé sur les voilà, enfin dessus là avec moi là sur les dernières modifications, les enfin il y a un gros travail. Et puis on remercie l'épicerie séquentielle globalement qui permet que cette revue existe.
Et puis on remercie aussi Marc-André, on l'a déjà dit, mais on le remercie à nouveau, et toute l'équipe du Mémorial National de la Prison de Montluc, et on vous remercie vous.
Merci aussi. Avec plaisir. Merci d'être venu. Et tu voulais saluer quelqu'un qui nous a proposé un titre. Ah non.
Non, que... alors je voulais juste terminer. Avant...
Toi, tu dormais au début, mais maintenant c'est fini.
Ouais, je suis désolé. Non, c'est comme ça. Non, ce que je voulais juste rajouter, c'est on termine pas avec un agenda, etc. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le temps de le préparer. Mais par contre, je voulais juste rappeler que on approche du 8 mars, journée des droits des femmes. Il y a pas mal de choses qui se passent sur Lyon. Là, j'ai en mémoire effectivement qu'il y a aussi GAMS, l'association qu'on a déjà reçue, qui organise aussi des choses, des débats, etc., etc. Bougez-vous parce que on n'y est pas au bout. Donc voilà.
Ok.
Voilà, pardon, et je te laisse reprendre le micro, Mathieu.
Mais c'était voilà une parenthèse qui méritait d'être laissée. On voulait finir, parce qu'on finissait sur les remerciements, avec la dernière chanson là qu'on va mettre. En fait, un petit merci au père de Idriss, qui nous écoute peut-être. Comme on disait tout à l'heure, nous, on n'est pas d'origine algérienne, on n'a pas non plus des parents qui sont partis ou grands-parents qui sont partis en Algérie. On vient pas chercher à parler qu'un camp n'aurait pas eu la possibilité de s'exprimer jusque-là. On a fait donc ce travail historique et on voulait finir sur une chanson justement venue d'Algérie. Et donc on a demandé un peu des conseils et on va passer une chanson de Slimane Azem qui est un chanteur qui en plus ramène encore à ce qu'on a voulu, à savoir de la complexité. C'est des situations complexes. C'est quelqu'un qui a dit et qui a chanté des très belles choses sur la nostalgie d'être un Algérien qui vit en France, des choses sur l'Algérie, qui a eu des problèmes aussi avec le pouvoir algérien tout en ayant été partisan de l'indépendance. Et donc voilà, c'est tous ces aspects complexes des réalités historiques sur lesquelles on est content de finir avec cette chanson.
Et tu peux en donner le titre ?
Eh ben, là non. Je vais te laisser le faire parce que je ne l'ai pas sous les yeux.
Fake Eyed Hajj.
Et bien voilà.
Très bien.
Eh bien, on se quitte donc en musique. On vous souhaite une bonne semaine à venir. Et on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une causerie à 22h. Comme toutes les semaines en fait. Voici, bonne soirée, bonne semaine. Ciao et merci.
Salut.
À vous encore.
Ciao. جنان ذي مغلاق كل شي ذي سي خلاق سي لخو خرمي ذا الرمان خ
خدم عزيزك العراق الزغاس ولاد الحبق يجوج جد بعيد يدي تبان الحماق يتشان عرمي في اللاق يضمع ولادك زوران فغاية جرد ثامورزيو الخير دو في غزي محا ماذا لقاضك يزنزن ناوي دلاقظ ما يصحا يا جرد ستشل ثامورز وهم غذاش ويز السبا
يا جرد ستشل ثامورز وهم
تكسر سيدر ميتسبور ستشي غايدي الجبابة
تكسر سيدر ميتسبور ستشي غايدي الجبابة
غاس وغالد تسكور تكفايدك المحبة
افغاية جرد تامورتي
الخير دوفي غزيك يمحا
ماذا القاضي الزنزل
لا ود لا قد ما يصحى غليظ بسجن نمتشي مجر المغرب بذل عيشة
غليظ بسجن نمتشي مجر المغرب بذل عيشة
شيظ الحب ثرني ظليم تخصير الدجل معيشة
شيظ الحب ثرني ظليم عيشة
مذنك سجي ضيد أشليم تحصد ضيم الهيشة
أفغى يجرد تامورتي
الخير توفي غزيش يمحى
مال القاضي الزنزل
ناوي دلاقل ما يصحى يا جراد فهمي مانيش تسين الداش وتسوير
يا جراد فهمي مانيش تسين الداش وتسوير
غس هجي ذق فرونيش اتو غلظة نسيدكير
غس هجي ذق فرونيش اتو غلظة نسيدكير
مولاش ذنوبي يريش اتخلص الله ينسى الشيخ
افضى يا جراد تامورتي
الخير دو في غزك يمحى
مال القاضي شي الزنزل
ناوي دلاقظ ما يصحى هل ذيك ضيين يا زراد تسفغ الدذي العلام
هل
ذيك
ضيين يا زراد تسفغ
تصفر وروح ضام الراد تبغي ضيد جذ الشتلاق
تصفر وروح ضام الراد تبغي ضيد جذ
لي فات الحل يا عدى وجراد يخيد الظهر ويحلى
أفغال يا جراد تامرتي
الخير دوفي غزي في محا
ما بالقاضش يزلزل
داود العقل ما يصاحب